Accent d'Europe, Catherine Roland.
Bonjour à tous. C'est une pratique controversée en Europe qui dépasse les clivages politiques traditionnels. La gestation pour autrui est interdite dans la majorité des pays membres. En Europe de l'Est, en revanche, le recours à une mère porteuse est autorisé, notamment en Russie où cette pratique progresse chaque année. Reportage à Moscou, Étienne Bouche.
Officiellement, le recours à la GPA est autorisé uniquement aux individus souffrant d'infertilité, qu'il s'agisse d'un couple ou d'une personne célibataire, femme ou homme. La pratique se développe dans les grandes villes du pays, Moscou et Saint-Pétersbourg, où les cliniques spécialisées se font concurrence. Le nombre de contrats de GPA augmenterait chaque année d'environ 20%. Une évolution liée aux problèmes de fertilité que connaissent les sociétés occidentales. C'est ce qu'explique Dmitri Dmitriev, médecin à la clinique Altravita. Cet établissement du sud de Moscou accompagne des mères porteuses durant leur grossesse.
Conformément à la loi, les mères porteuses ne peuvent pas avoir plus de 35 ans et doivent avoir un enfant à elles. Elles doivent être en bonne santé. La loi impose d'ailleurs une série de tests médicaux et notre clinique demande même des analyses complémentaires. Nous leur faisons signer un document dans lequel elles attestent avoir bien compris le statut de mère porteuse. Ça, c'est obligatoire.
La clinique reçoit avec prudence. Elle tient à sa réputation et redoute les reportages à charge sur une pratique qu'elle sait controversée. Dmitri Dmitriev explique que la loi introduite en 2012 a permis un meilleur encadrement, écartant les situations conflictuelles.
Avant, c'était très compliqué, car selon la loi, la femme qui mettait au monde avait tous les droits sur le nouveau-né, si bien que les futurs parents se trouvaient dans une situation d'attente très pénible. Cela créait les conditions d'un potentiel chantage. La mère porteuse pouvait finalement décider de garder l'enfant. Aujourd'hui, la justice peut examiner les contrats passés entre les deux parties et prononcer des décisions en faveur de ses parents.
Tatiana est logée dans un meublé en face de la clinique. Cette blonde de 34 ans est originaire de Rybinsk, à 300 km au nord de Moscou. Elle porte l'enfant d'un couple qu'elle ne connaît pas. Elle en est à son 8e mois de grossesse. Une grossesse qu'elle dissimule à son entourage. Seul son compagnon et sa fille aînée sont au courant. Elle reprendra le cours de sa vie normale après l'accouchement.
Je suis manager dans un magasin de meubles. J'ai plutôt un bon salaire, mais comme j'avais besoin d'une certaine somme d'argent tout de suite, j'ai pensé que ça valait le coup de le faire. J'avais pris un crédit pour faire des travaux dans mon appartement. Du coup, j'ai voulu le rembourser tout de suite pour ne pas être bloqué avec ça.
Le montant de la compensation accordée aux mères porteuses est très attractif pour des femmes principalement issues de petites villes. Entre 10 000 et 15 000 euros, c'est la fourchette indiquée par Constantin Zvitnev, fondateur du principal cabinet juridique spécialisé du pays. Une somme à laquelle s'ajoute un versement mensuel d'environ 400 euros. Selon ce promoteur de la GPA, la dénonciation de l'exploitation des femmes relève de la démagogie.
Il ne s'agit en aucun cas d'exploitation, dans la mesure où être mère porteuse, c'est un travail pour lequel elle perçoit une compensation établie dans le cadre d'un contrat. Cette compensation est tout à fait conséquente et j'estime que c'est parfaitement justifié car c'est un travail qui requiert une responsabilité extrême 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Constantin Zvitnev fait en sorte que ses clients puissent obtenir rapidement des certificats de naissance officialisant leur statut de parent. Pour cela, il est indispensable que la gestatrice renonce officiellement au bébé. Le cabinet de Constantin Zvitnev fut le premier à rendre possible l'édition d'un certificat de naissance établissant un homme célibataire comme unique parent. Selon le juriste, la GPA est un moyen de répondre à des aspirations légitimes.
Les technologies de médecine reproductive, dont la gestation pour autrui, sont un remède à l'infertilité. Tout le monde n'en a pas besoin, mais refuser à quelqu'un ces traitements accessibles qui compensent l'infertilité, pour moi, c'est un délit. Car il existe des droits humains fondamentaux. Et en Russie, le droit fondamental de chaque individu à avoir une descendance est protégé.
Si l'Église orthodoxe y est opposée, la légalité de la GPA n'est pas tellement débattue en Russie où la démographie demeure un sujet de préoccupation majeure.
Dans la Croatie catholique Irlande, l'AGPA bénéficie jusqu'ici d'un vide juridique. Une situation en passe d'être comblée avec le projet de loi assistance à la reproduction humaine qui doit être examiné au Parlement. Et l'un des pans du texte prévoit des règles strictes pour encadrer le recours à l'AGPA. Julien Lagache.
Ces dernières années, les freins à l'adoption ont rendu l'AGPA plus attractive pour les Irlandais qui se rendent habituellement aux États-Unis, à Chypre, en Ukraine, en Géorgie ou bien en Inde. Dublin veut donc proposer un cadre qui permette la procédure sur le territoire national avec un double principe. Le texte ne prévoit en l'état de légiférer que sur les GPA totales réalisées en Irlande, donc dans lesquelles la mère porteuse n'a aucun lien génétique avec l'embryon, et il proscrit les GPA commerciales effectuées contre rétribution. Le système repose sur une autorité de contrôle chargée d'étudier en amont les dossiers constitués par des parents, seuls ou en couple, et de vérifier que tous les critères sont remplis pour donner son aval à la procédure médicale ouverte uniquement aux couples qui ne peuvent pas concevoir. Seuls les cas d'infertilité, de risque médical lié à une grossesse ou de problèmes physiologiques seront admis. La mère porteuse doit, elle, avoir entre 25 et 47 ans, avoir déjà eu un enfant et ne peut effectuer de GPA plus de deux fois. Après la naissance, il revient à un tribunal d'examiner la question du transfert de parentalité puisque, selon la loi irlandaise, celle qui donne naissance est automatiquement reconnue comme mère légitime, même en l'absence de lien génétique. C'est d'ailleurs l'un des points qui suscite des critiques sur le projet de loi. D'après ses détracteurs, il ne donne pas plus d'assurance aux parents intentionnels qu'actuellement, et ce, en dépit du consentement donné par toutes les parties avant la procédure. Une procédure qui resterait longue et coûteuse pour les demandeurs, avec de nombreux frais à leur charge pour les conseils légaux, ainsi que les évaluations médicales et psychologiques à réaliser en amont. Bref, estiment les plus critiques, il s'agira d'une loi restrictive qui n'incitera pas forcément les éventuels parents à recourir à une GPA sur le sol irlandais.
C'est une autre manière d'aider à la conception, le don de spermatozoïdes. Et ce sont les Danois, les champions du monde. La première banque de sperme Cryos est basée à Aarhus. La vente de gamètes y est une véritable industrie, avec une exportation qui atteint désormais une centaine de pays dans le monde. Et des milliers de petits vikings naissent chaque année grâce aux donneurs que les futurs parents peuvent choisir sur catalogue. Anne-Françoise River.
Blond, aux yeux bleus, 1m77 pour 75 kg. Selon sa fiche de présentation, il ne porte pas de lentilles, n'a pas d'allergie, est O négatif. Il a deux enfants, tous les deux heureux et en bonne santé, bien sûr. Il est chrétien, ne fume pas, dort en moyenne 8 heures par nuit et travaille dans un magasin. Et s'il a choisi de donner son sperme, c'est que le monde a besoin de plus de gens comme lui, souriants et positifs, écrit-il aux parents en quête d'un donneur. Pour s'offrir les gamètes de ce parfait géniteur, il vous suffira de débourser entre 486 et 2112 euros en fonction de la qualité de l'exemplaire souhaité, de solution, se faire livrer dans une clinique de fertilité ou bien par DHL dans un tube d'azote emballé dans un colis isotherme pour une insémination à la maison. Au total, Cryos, c'est le nom de la première banque de sperme au monde, dispose d'un catalogue de plus de 900 donneurs. L'aventure a commencé dans les années 80 quand tout le chou, son patron, fait un rêve plein de gamètes congelées qu'il ne se lasse plus depuis de raconter. Au total, Cryos estime avoir permis d'enfanter 60 000 marmots dans le monde. La sélection des donneurs est méticuleuse, les candidats subissent une batterie de tests, examens sanguins, génétiques, tests psychologiques. Si le Danemark interdit la rémunération du don de sperme, il autorise le versement d'une compensation financière exonérée d'impôts qui peut atteindre 45 euros le don. Un business qui n'est pas sans poser de questions. Cryos n'hésite pas à mettre en avant l'origine scandinave de la plupart de ses donneurs. Bébé blond aux yeux bleus garantis. Il y a quelques années, son site internet s'ouvrait sur le slogan « Félicitations, c'est un viking ». Jusqu'en 2012, la législation danoise autorisait 25 procréations par donneur. Depuis, la limite a été rabaissée à 12. Mais l'exportation permet de contourner cet obstacle. En moyenne, chaque donneur aurait engendré 25 enfants. Une poignée, cependant, serait les géniteurs d'une centaine de bébés.
Au Portugal, les infirmiers des blocs opératoires sont en grève pour plus d'un mois. 40 jours, c'est long. Alors un groupe de 5 infirmiers a eu l'idée de récolter des fonds en recourant au fonds participatif, le crowdfunding. Marilyn Darcy est à Lisbonne. Bonjour Marilyn.
Bonjour Catherine.
Alors on va commencer d'abord Marilyn par les raisons de cette colère.
Les syndicats des infirmiers qui soutiennent le mouvement de grève estiment que les conditions de travail se dégradent dans les hôpitaux. L'État, lui, a certes dégagé une enveloppe pour le déblocage de la progression dans l'ancienneté gelée depuis 10 ans, mais les infirmiers constatent que les administrations hospitalières rechignent à l'employer. La situation s'est aggravée en 2009 avec l'introduction du contrat de travail individuel de la fonction publique, ce qui a provoqué une inégalité de fait entre professionnels. C'est ce qu'explique José Rebelo, l'un des dirigeants du CEP, syndicat des infirmiers portugais. On l'écoute.
Nous revendiquons la création d'un contrat unique pour que tous les infirmiers du secteur public soient à égalité. On ne peut pas avoir deux niveaux différents pour le même travail. Là où c'est le plus visible, c'est dans les hôpitaux publics gérés par des administrations privées. La différence de salaire entre les contractuels et les fonctionnaires traditionnels y est particulièrement criante. Le travail de nuit, les week-ends, les 3-8 et les jours de vacances ne sont pas compensés de la même manière.
Il peut y avoir jusqu'à 200 euros de différence, voire plus. On observe des situations étranges, des infirmiers qui, après 25 ans d'ancienneté, touchent à peine le salaire d'un collègue qui n'a que 10 ans d'expérience.
Comme en France, Marilyn, si on ajoute les salaires gelés pour cause de crise, l'augmentation de l'âge de départ à la retraite, la diminution des effectifs et l'augmentation de la pénibilité, on obtient là un cocktail explosif.
C'est pourquoi les infirmiers en ont eu assez. Près de l'hôpital Santa Maria, Lisbonne, l'un des centres hospitaliers concernés par la grève chirurgicale, j'ai rencontré des infirmiers à l'origine de la récolte de fonds pour soutenir le mouvement. Ils sont ravis du succès avec plus de 360 000 euros récoltés jusqu'à la fermeture du crowdfunding le 19 novembre. Pour Nuno Correia, c'est la fiabilité garantie par le système de récolte de dons sur Internet qui a fait la différence.
Utiliser un compte bancaire courant ne rassurait pas du tout les collègues. Ils étaient méfiants, notamment quant à l'utilisation de l'argent. Alors parmi les options étudiées, celle du crowdfunding nous est apparue la plus adaptée. D'autant plus que c'était tout ou rien. Soit on récoltait 300 000 euros, soit l'ensemble des donateurs étaient remboursés.
Si seuls les infirmiers des blocs opératoires sont concernés dans les 5 centres hospitaliers, le crowdfunding a permis aux autres professionnels de santé de s'identifier aux grévistes, de participer et de soutenir le mouvement.
Et Marilyn, les infirmiers vous ont dit avoir fait leur compte. Hein, sans les 300 000 euros récoltés, la grève des 600 infirmiers était impossible, comme l'explique Victor Marques, l'un des organisateurs.
C'est impossible de faire grève si longtemps sans recevoir de salaire. Il fallait trouver un moyen d'aider les gens. Mais attention, ce n'est pas de l'indemnisation. Il s'agit de soutien, d'aide au cas par cas, car il faut bien manger et payer son loyer.
L'aide financière sera attribuée en fonction des besoins, à la demande, en justifiant les dépenses.
Et qu'en pense la population, Marilyn ?
360 000 euros pour un crowdfunding inédit, on peut dire qu'il y a une réelle adhésion de la population. Les infirmiers portugais ont une excellente réputation et sont bien formés à un niveau licence. D'ailleurs, des pays comme le Royaume-Uni leur font des ponts d'or pour les faire venir. Carlos Silva, un des patients que j'ai rencontré devant l'hôpital Santa Maria, soutient le mouvement.
Les infirmiers, ils sont mal payés et il n'y en a pas assez. La grève est totalement justifiée parce que le gouvernement ne veut pas céder. Alors oui, je les soutiens. Même si j'attends depuis longtemps une opération de la hanche et qu'elle risque encore d'être retardée avec cette grève. Mais tant pis, je les comprends, moi, les infirmiers.
Un infirmier débutant gagne environ 1200 euros bruts selon le barème en vigueur. Un bon salaire pour ceux qui connaissent mal le contexte et les inégalités observées. Les négociations ont repris entre le gouvernement et les représentants syndicaux, mais la marge de manœuvre du ministère est étroite. Il ne dispose que de 800 millions d'euros pour une augmentation des salaires de 3% et le rattrapage de la progression à l'ancienneté.
Marilyn Darcy, notre correspondante à Lisbonne. Merci et à bientôt.
À bientôt, Catherine.
Human activity has had a more direct effect on global warming than previously thought.
Le monde s'éloigne de son objectif de maîtrise du réchauffement climatique et de l'ambition de l'accord de Paris, la fameuse COP21. C'est le cri d'alarme lancé par l'ONU et c'est dans ce contexte que s'ouvre lundi prochain la COP24 à Katowice, en Pologne, pays on ne peut plus sceptique sur le changement climatique. En France, le président Macron a lancé une grande concertation sur la transition écologique et annoncé des aménagements pour la fiscalité verte, espérant ainsi calmer la fronde des gilets jaunes. Pour les Verts français qui dénoncent l'absence de mesures sociales, le compte n'y est pas. À 6 mois des élections européennes, c'est donc le moment de s'interroger sur l'audience des Verts en Europe. Bonjour Daniel Vigneron.
Bonjour Catherine.
Alors, les Verts français tirent-ils un bénéfice politique de leur position résolument sociale?
Si l'on en croit l'eurobaromètre du Parlement européen, la réponse est oui. Les Verts français de ELV sont donnés à présent à 7,5% d'intention de vote, alors qu'on ne leur accordait au début de l'année qu'environ 4%. Malgré cette amélioration, on est encore en dessous du score écologiste de 9% obtenu lors des européennes de 2014 et encore beaucoup plus loin des 16% records de 2009. L'écologie politique en France se remet doucement des déboires électoraux de ces dernières années que lui ont valu ses divisions et ses querelles d'ego. Mais elle n'a pas retrouvé encore sa place parmi les grands courants politiques.
Globalement en Europe, les partis écologistes sont-ils en progression ?
Non, ils s'inscrivent globalement en recul. D'abord au plan électoral, on constate que les mouvements écologistes sont pratiquement absents et en tout cas très confidentiels dans la moitié des pays de l'Union. C'est le cas dans tous les pays de l'Est à l'exception de la Lettonie, mais c'est également le cas en Irlande, en Grèce, mais surtout en Italie et en Espagne, ce dernier pays ayant vu le parti Equo entrer dans la mouvance libertaire de Podemos. Les Verts sont ensuite en recul par rapport à 2014 dans 6 pays. Il s'agit, on l'a vu, de la France, mais également de la Hongrie, du Portugal, de la Lettonie et surtout de la Suède et de l'Autriche, où les Verts sont en chute libre.
Ces deux derniers pays sont pourtant très écolo-friendly.
Absolument, Catherine. L'Autriche utilise 72% d'énergie renouvelable dans sa production d'électricité et la Suède, 65%. Pour mémoire, on en est à 19% en France. En fait, le parti de l'environnement suédois, dont le score dépassait 15% en 2014, a pâti de son alliance au gouvernement avec le sociodémocrate, qui peine toujours à former un nouveau gouvernement après leur net recul aux élections de septembre dernier. Leur recul est de même ampleur en Autriche, où les Grüne ont connu beaucoup de conflits internes, un peu comme les Français. En outre, aux élections législatives de l'automne 2017, leurs électeurs ont préféré voter utile pour les sociodémocrates en difficulté. Cela n'a servi d'ailleurs à rien.
Dans quel pays les Verts progressent-ils ?
Seulement dans 4 pays au nord de l'Europe. Une progression tranquille en Finlande, où ils passent de 9 à 12%, un peu plus forte aux Pays-Bas, où ils progressent de 7 à 12%. Leur poussée en Belgique est plus significative, puisque les Roune flamands doublent leur score de 7 à 14%, et les écolos francophones bondissent de 4 à 11%. Mais la plus belle progression européenne est le fait des Verts allemands qui passent de 10 à 20%, car ils bénéficient à fond de l'apport des électeurs à la fois déçus par le SPD et inquiets de la montée des nationalistes. On l'a vu récemment en Bavière.
Et peut-on dire qu'il y a d'autres signes d'un déclin de l'écologie politique ?
Oui, car l'on constate que les Verts ne participent pratiquement plus à des coalitions gouvernementales en Europe. Ils ont quitté le pouvoir en Estonie à la suite des récentes élections. En Grèce, ils ne disposent plus, dans le gouvernement dirigé par Syriza, que d'un petit strapontin au secrétariat d'État à l'environnement. En Suède, l'incertitude politique est à son comble et ils ne sont pas assurés de retrouver les 6 ministères qu'ils dirigeaient jusqu'en septembre au sein du gouvernement social-démocrate. Finalement, leur ultime bastion européen, c'est le petit Luxembourg, où ils détiennent 3 portefeuilles importants. Cela dit, dans ce panorama plutôt sombre, les Verts européens ont au moins une raison de se consoler. 2 chefs d'État sont issus de leur rang. Il s'agit du président de Lettonie, Raimonds Vejuans, ainsi que du président autrichien Alexander Van der Bellen. Celui-ci n'est cependant pas à la noce avec un gouvernement droite, extrême droite et un mouvement écologiste en déconfiture.
Daniel Vigneron de myeurope.info. Merci Daniel.
À bientôt Catherine.
De l'écologie, du réchauffement de la planète et de la COP24, on en reparle dès lundi prochain. Ne ratez pas le rendez-vous. Françoise Grelot était à la réalisation aujourd'hui comme d'habitude. Retrouvez-nous sur RFI.fr ou sur notre page Facebook. À demain.